Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Cette émission est parrainée par Radioline, l'appli aux 60 000 radios et podcasts disponibles sur les stores et depuis le site radioline.co.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut Cyanociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui a gardé de l'adolescence un goût immodéré pour les trucs qui font un peu peur, les livres, les jeux vidéo, les films, si ça fait un peu suinter du fessier, on est souvent preneur, à condition bien sûr qu'il ne s'agisse pas d'un énième screamer bidon de lessive ou d'un fan footage bas du front comme on a souvent tendance à nous en infliger du côté de la production grand public du genre depuis quelques années. Mais on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, même si elle n'est qu'à moitié réussie, comme ce Jane Doe Identity en ce moment au cinéma dont on a parlé avec les trois légistes de la critique ici présents. Yannick Dahan, mets ton casque, salut Yannick.
Salut.
Julien Dupuis, salut Julien.
Bonjour.
Et Stéphane Maïsaki, salut Stéphane.
Salut Thomas.
C'est nos ciné épisode 88 et c'est parti.
Monde de merde, pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Ça va, j'avais pas vu que tu l'avais mis ton casque, pas besoin de m'insulter. Jane Doe Identity ou The Autopsy of Jane Doe en VO, d'ailleurs ils auraient mieux fait de garder le titre puisque c'est l'histoire donc d'une autopsie, de l'autopsie d'une inconnue puisque Jane Doe c'est le nom qu'on donne aux États-Unis au corps féminin non identifié. Jane Doe donc a été retrouvée par la police locale dans une maison où visiblement se sont produites des choses pas très nettes. Elle est confiée aux bons soins d'un duo de légistes père et fils, Tommy et Austin Tilden, alias le vétéran Brian Cox et le jeune Emile Hirsch, qui vont vite se rendre compte qu'il y a un truc qui déconne avec ce corps un peu trop vivant pour être complètement mort.
No one could see what we have seen.
Et derrière la caméra, c'est André Ovredal, j'ai réussi à prononcer son nom, je suis assez content, dont perso j'avais moi assez bien aimé le faux docu d'horreur Trollhunter, qui était assez malin, ça tenait pas la route sur la longueur. Là c'est un peu le même problème, ça démarre très bien, la conclusion est assez pourrie, mais je vais vous laisser nous dire messieurs ce que vous en avez pensé. À commencer par toi Yannick qui nous a mis sur la piste de ce film.
Je crois que je suis celui qui le préfère le plus, donc je vais me faire déchirer par les deux autres après, mais bon c'est pas grave.
Vas-y, vas-y, c'est pas grave.
Petite chose. Non mais parce que moi, j'attends plus rien de ce genre de truc, donc c'est vrai que...
Je croyais que t'allais nous dire que t'attendais plus rien de Stéphane et Yannick. Stéphane et Julien, j'ai eu super peur.
J'attends plus rien de ce genre de sous-production de James Wan, si tu veux, vu qu'on en a pléthore. Donc, je les regarde des fois d'un œil, et en général, au bout de 5 minutes, je m'emmerde et je zappe. Là, j'ai été scotché pendant au moins une petite heure. Donc, je trouve que le film est pas inintéressant. C'est un tout petit film, hein. Attention, vraiment, oui. C'est un tout petit budget qui est intégralement en huis clos, sauf la première scène du film. D'ailleurs, comme tu disais, le André Ovredal, si je ne m'abuse, a dû faire bon gré mal gré, mais ta vie, vu que ça fait 7 ans qu'il a fait Trollhunter et que on pensait, en tout cas, vu le succès d'Estime et dans les festivals du film à travers le monde, qu'il allait peut-être arriver à Hollywood plus rapidement ou en tout cas faire des choses.
Je crois qu'il a travaillé pour la télévision.
Peut-être
aussi,
un peu plus. Bon, toujours est-il qu'assez rapidement, moi j'avais vu qu'il avait, c'était de lui-même qu'il avait demandé à ses producteurs de lui trouver un script dans l'esprit de Conjuring pour pouvoir essayer de faire un second long métrage assez rapidement. Donc il fait ce truc là et bon. Alors, comment dire, je trouve le film intéressant à partir du moment où on accepte le fait que son postulat, son concept, qui est cool, hein, qui est de dire je vais faire peur avec un cadavre que je vois intégralement dès le début du film et qui ne bougera pas. Donc c'est couillu, c'est casse-gueule évidemment, mais c'est couillu. Mais on peut l'apprécier à partir du moment où on admet que c'est clairement, je prends le concept de Aftermath de Nacho Cerda et je le tire en longueur pour en faire un film d'1h30. Bon, la problématique, si tu veux, c'est que Nacho Cerda est un mec assez brillant et que son Aftermath, au-delà du côté provoque du sujet, la nécrophilie et tout ça, et des émois qu'il peut procurer, était un film extrêmement intelligent en termes de mise en scène et qui arrivait à donner une dimension philosophique à son postulat de base, qui, je le rappelle vite fait pour les gens qui savent pas, Aftermath c'est tout con, hein, c'est un médecin légiste qui est en train de découper, de faire une autopsie, et on se rend compte petit à petit qu'il va carrément faire l'amour au cadavre, enfin c'est un mot gentil,
oui.
Et qu'il va souiller ce cadavre là sexuellement, avec cette capacité qu'avait Cerda de, par des cadres hyper intelligents sur le cadavre, d'humaniser progressivement le cadavre à mesure, évidemment, évidemment qu'il déshumanisait le légiste. Donc c'était la grande force de ce court-métrage-là. Il en reprend le postulat, évidemment, avec une intrigue un peu plus fantastique qu'on voit venir. Hein. C'est pas ça le problème. Donc c'est pas tellement sur son concept que je vais dire que le film est intéressant, c'est que j'ai trouvé qu'en une heure, avec un aussi petit budget, avec deux personnages et un cadavre dans une pièce, il arrivait en termes de mise en scène, en termes de scénographie, que je trouvais extrêmement lisible, de prendre parti de son décor, d'arriver à créer un vrai mystère, de nous intriguer. Moi, c'est le minimum syndical que je demande à un film, c'est de me captiver. Il m'a captivé. J'ai trouvé ça fascinant. Qu'est-ce qui se passe, etc. Évidemment, plus le film avançait, plus je me disais, mec, j'ai pas envie d'avoir la réponse parce que je sais qu'elle va être foirée. C'est que de toute façon, on s'en tape. Après, le plus gros problème du dernier tiers, je les laisserai bondir là-dessus et je pense que Julien va très bien expliquer pourquoi, c'est qu'il tient pas son concept jusqu'au bout. Donc, voilà. À partir du moment où il le tient plus, ça devient un slasher à la con et c'est plus intéressant. Mais en termes de rythmique, de gestion, moi je trouve, de l'espace, de la durée des plans, des cadres, je suis désolé, vous allez me sauter dessus, mais je trouvais qu'il y avait à certains moments un enchaînement de plans qui était presque Hitchcockien, c'est-à-dire que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose qui tenait de l'ordre du suspense. Toute proportion gardée, on est d'accord. Oh, on parle d'un petit
là,
film.
Tu vois, j'étais avec toi jusqu'à là. Jusque-là. Je te soutenais jusque-là.
C'est pour mettre un qualificatif, me fais pas chier. Voilà. J'aurais pu trop, tu vois, faire des circonvolutions, blabla. Bon, je vais là pour aller vite. Mais il y a un vrai sens, je trouve, du suspense, de la montée en crescendo, qui, voilà, malheureusement, s'arrête au bout d'une heure, à la fin du second tiers. Mais c'est le syndrome. C'est le syndrome des derniers tiers aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à finir un film qui soit consistant sur sa dimension thématique. C'est-à-dire il aurait pu ouvrir son récit. Il aurait pu le faire partir comme Nacho Cerda vers quelque chose de plus philosophique sur la notion de mort, de vivant, de sacré, de désacré. Et il ne le fait pas, jamais. Il en reste terre à terre. Donc c'est un thriller qui pendant une heure marche. Et puis voilà, après ça rippe.
Moi, je suis assez d'accord avec Yannick, sauf pour le Hitchcockien. Mais
pour Yannick, Fast and Furious 4, c'est Hitchcockien. Alors,
ouais, mais il a pas totalement tort.
Fast and Furious 5.
En fait, Julien, justement, Yannick, t'as tendu une perche magnifique en disant que t'allais très bien nous expliquer pourquoi ça marchait.
Ça, j'en sais rien. C'est intéressant parce que tout dépend en fait de ce que t'attends du film que tu vas voir. Moi, j'ai eu la bêtise et l'innocence de croire que le film allait travailler autour de son concept et même pas d'un point de vue philosophique en fait, c'est-à-dire simplement l'exercice cinématographique qu'on te promet au début, c'est-à-dire de créer un antagoniste qui ne fait rien. C'est ça qui est génial dans le concept, je trouve, de Jane Doe. C'est là qu'il y a un vrai potentiel. C'est qu'au-delà du huis clos, qui est déjà un exercice cinématographique intéressant, c'est peut-être là-dessus qu'il s'en sort le mieux, peut-être dans la première heure, c'est comment tu prends un cadavre et tu crées de la peur par le seul pouvoir de ta caméra, puisque c'est un objet inanimé, mais que la caméra est capable en fait de donner de la vie en fait à cet objet inanimé. Et je trouve que dès le début en fait, le film se plante dans les grandes largeurs là-dessus, sur ce que moi j'ai pris comme étant le grand enjeu et le grand défi de cet exercice-là. Et j'en veux pour preuve. Alors Yannick parlait d'échange de plans et tout. Moi ça m'est passé. Alors j'étais peut-être mal luné quand j'ai vu le film, mais ça m'est passé complètement au-dessus de la tête. Et je me souviens notamment de alors il faudrait que je le revoie peut-être pour décoder et être un peu plus cool avec le film, mais la façon qu'il a de filmer le cadavre, et il filmerait une plante verte, enfin un élément de décor, ce serait exactement la même chose. C'est-à-dire que, par exemple,
il prend des éléments de Cerda quand même, clairement.
Il y a des gros plans juste sur le cadavre qui reviennent à intervalles réguliers. C'est tout le temps la même valeur de plan. T'as l'impression que ça a été shooté une fois et que ça revient comme ça régulièrement dans le. Et il travaille jamais là-dessus. Et forcément, comme il n'arrive pas en fait à travailler cette matière-là, et ben il se plante dans les grandes largeurs, comme le disait Yannick. C'est-à-dire, il tient pas son concept, il tient pas vraiment le concept du huis clos déjà. C'est-à-dire que le vrai huis clos, c'est cette salle d'autopsie.
Au bout d'un moment, ils en sortent.
Et cet autre concept, c'est donc avoir un antagoniste qui ne bouge pas. Et ça aussi, ils en sortent.
On va pas spoiler.
Mais très très vite, en fait.
Ça aussi, ça s'arrête.
Il y a un transfert qui se fait et avec, finalement, ça devient une espèce de film de zombies bête et méchant. Donc moi, tout ce que.
Sans parler de la résolution en termes de scénaristique.
Qui est un peu débile. Non seulement c'est nul, mais en plus tu le vois venir. C'est complètement naze. Tu sais que le film, très vite, tu sais qu'il va travailler cette mythologie fantastique-là, parce que c'est la plus simple et la plus basique à travailler, et même l'aspect, disons, film policier du récit est super pauvre, en fait, très très rapidement, quoi. Ils n'arrivent pas à te créer beaucoup de surprises finalement autour de ce cadavre, quoi, et autour de ce qu'ils vont découvrir à mesure qu'ils découpent le cadavre. Moi, le seul truc que je sauve du film, c'est ce duo de comédiens que je suis très content de voir, surtout dans le cinéma fantastique qui n'est pas très bien servi en général au niveau du casting. Moi, j'adore Emile Hirsch, je trouve que c'est un comédien qu'on ne voit pas suffisamment souvent, en fait. Ça vient peut-être de ses choix, je ne sais pas. Et Brian Cox, et je trouve qu'ils fonctionnent très bien, tous les deux. Ils sont attachants. Ça fonctionne bien. C'est vraiment agréable. Mais ça ne fait pas un bon film fantastique, en tout cas.
Stéphane.
Moi, je vais rebondir un peu sur ce que disait Julien sur le cadavre. C'est vrai que effectivement, moi, je suis d'accord avec lui. La mise en scène autour de ça est pas forcément hyper, travaillée. Excuse-moi, Yannick. Hein.
Non, je suis pas d'accord.
Voilà. Mais le truc, c'est que. Mais le truc, par contre, c'est peut-être un détail, mais c'est un choix spécifique, en fait. C'est que l'actrice qui joue le cadavre, c'est une actrice. En fait, c'est pas un corps.
C'est pas un vrai cadavre.
Voilà. Non, mais c'est pas un corps inanimé, donc c'est pas une recréation.
Oui.
C'est ce qui fait qu'on a l'impression par moment qu'elle est vivante, en fait, entre guillemets. Ce qui est quand même un peu le principe du truc. Ce qui veut dire que voilà, on a. C'est un choix, ce qui est peut-être le choix le plus simple, hein, mais ça fonctionne à ce niveau-là, je trouve. Et le problème, après, moi, c'est le problème que j'ai avec ce film, c'est le problème que j'ai un peu avec Get Out, ce genre de truc, en fait, c'est que je suis. Je peux pas enlever le fait que pendant 45 minutes, je me suis posé des questions sur où est-ce que ça voulait aller, voire même être pris le mystère, en fait.
Oui, tout simplement.
Mais c'est vrai que la résolution du mystère, c'est là où c'est la différence, c'est que tu dis, tiens, t'es en train de regarder un film de petit malin. Oui. Et pour moi, un film de petit malin, selon la façon dont ça se résout, ça devient soit un film intelligent, soit un film complètement con. Et du coup, le problème, j'ai un peu ce problème-là avec Get Out. C'est-à-dire, ce n'est que Get Out a l'avantage au moins d'être très intéressant thématiquement, ce qui là n'est pas du tout le cas, en fait. Effectivement, la résolution est hyper facile. C'est même le truc le plus bateau qu'on puisse trouver, quoi. Et moi, j'ai quand même une mention spéciale pour le doigt de pied qui fait un clin d'œil, quoi. C'est un plan final qui est quand même assez hallucinant, quoi. Je pense que ça parle à personne là, mais quand les gens verront le film, ils comprendront, quoi. C'est qui achève le ridicule de la situation, quoi. C'est-à-dire que voilà. Et pour rebondir sur, tu parlais d'Aftermath, qui est plutôt bien vu, en fait. Et en plus, Aftermath, bon, c'est un illustre aîné, parce que c'est quand même un film, même si on connaît pas en France, c'est quand même un film qui a lancé toute une vague de cinéma fantastique espagnol dans les années 90 et 2000, dont on connaît les avatars, les Balagueros, les mecs comme ça, quoi, et La Lumière de Xavi Jiménez, qui s'est quand même posé là, en fait, en termes de voilà, c'est une recréation du fantastique. Là, le problème de ce film-là, c'est que moi oui, je suis désolé, mais j'aurais aimé effectivement que le film parte dans cette direction sur le questionnement de la mort, en fait, et pas de la vie après la mort, vraiment le questionnement de la mort, parce que pour moi, c'est l'essence même du fantastique. Le fantastique, c'est là pour te faire questionner, en fait, sur ta propre existence et ta propre mort. Et donc, du coup, le fait que les mecs partent dans une espèce de truc à croque-mitaine un peu basique, en se disant, tiens, on va peut-être faire une suite derrière ça.
La porte est grande ouverte pour une suite derrière.
Je veux juste dire un truc là-dessus. Parce
dis un bon, truc.
Je suis d'accord, mais de toute façon.
Pas d'accord.
Non, comme Stéphane parle essentiellement, effectivement, de comment tenir son concept au final, ce que disait Julien, là, je suis plus sévère vis-à-vis de Julien. Je pense qu'il n'a pas forcément regardé le début très bien, mais bon. La fin, on est d'accord.
Les chroniqueurs pendant le
film. Quand on dit que le final est ridicule, le dernier tiers est ridicule, je suis complètement d'accord et je ne vais pas là-dessus et je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est ce que je disais quand je disais. J'aurais aimé que thématiquement il aille plus loin. Maintenant, je trouve que ce serait que c'est un peu malhonnête de le bâcher intégralement. Moi, je m'attendais à rien. Peut-être que contrairement à d'autres, en tout cas, j'y suis allé en m'attendant à rien. Que moi, dès le premier plan, j'ai quand même un plan du sol que je comprends pas au départ, qui est un plan de pluie où je vois la terre qui commence à s'enlever. Que j'ai trouvé ce plan extrêmement élégant et que symboliquement, il me disait déjà quelque chose. Que j'arrive dans une maison où il y a 5 meurtres, où j'ai trouvé la scène super bien filmé, où tous les personnages sont en contre-jour, où c'est extrêmement structuré pour te dire tout ça, tous ces vivants n'ont pas d'importance. La caméra qui descend, qui arrive sur un cadavre, qui lui est le seul immaculé, illuminé, presque trop beau pour être vrai. Je trouvais qu'il y avait les germes
de la thématique, ils y étaient. Le fait que derrière, ça soit une autopsie, je le savais même pas dans ma tête que ça allait être un film autopsie, si tu veux. Du coup, quand je vois l'autopsie, je me dis, ah ok, donc il fait Nacho Cerda. Donc évidemment, je m'attends au développement de cette thématique qui n'arrive jamais.
Nacho Cerda, le mec. Hein.
Non, mais peut-être. Mais ce que je veux dire, je m'attendais aussi à cette thématique-là. Elle n'arrive pas. Je suis le premier, désolé. Mais je trouve que malgré tout, il y a des éléments qui méritent un peu d'être sauvés au début.
Quoi. Moi, le problème d'un truc comme ça, c'est que c'est même pas une question de pas tenir son concept. C'est qu'à partir du moment où tu tiens pas, enfin, je veux dire, le mystère, tout simplement, en fait, et que tu t'en gardes pas une part de mystère, une vraie part de mystère. Pour moi, je te dis, j'ai l'impression de me taper un Freddy Krueger. Par moment, il manque que les vannes parce qu'elle parle pas. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné, c'est un peu problématique, quoi. Donc, du coup, un film qui avait le potentiel d'être malin, d'être intelligent, devient complètement con. Forcément, en fait, d'un seul coup, encore une fois, c'est comme Get Out. Tu peux pas enlever le fait qu'une fois que tu sors de là, tu te dis, tiens, il y avait un potentiel, il y avait quelque chose. C'est ça, quand on dit, je pense, on dit, il tient pas son concept. C'est pas, pour moi, en tout cas, c'est pas autre chose parce qu'il tient pas le concept de mise en scène. Il n'y a pas de concept de mise en scène pour moi. C'est shooté, quoi. Tu vois, ça va, c'est propre. Mais c'est pas Hitchcockien, tu vois. Enfin, non mais attends, faut arrêter. Non mais de toute façon, il y a qu'un seul Hitchcock, on arrête maintenant.
Il y a un point de vue. Tu veux pas, vous dites qu'il y en a pas. Moi, je maintiens juste que je trouve qu'il y a un point de vue.
Non mais Yann, c'est pour
t'emmerder. Il n'est pas amené.
Non mais Yann, c'est pour t'emmerder. Le truc, si tu veux, c'est que le truc, si tu veux, c'est voilà. Enfin, ça reste un film. Pour moi, c'est un film de scénariste. C'est pas même pas vraiment un film de réalisateur. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un mec à qui on a filé un scénar et il a fait OK. Et en fait, le fait qu'il aille jusqu'au bout de cette logique scénaristique. Tu vois, et encore une fois, bah, je suis désolé, on spoil pas parce que si tu spoil ça, en fait, tu vas griller. Enfin, moi, je pense que si tu dis ça aux gens, les gens, ils y vont pas. Non. Tu vois, ils ont déjà vu ce film 20 millions de fois. Quoi, tu vois, après, si que le fait que le réalisateur ne se pose pas un seul moment la question de comment il va, ne serait-ce que.
Surpasser cette limite.
Ouais, et puis éventuellement essayer de trouver le mystère. Enfin, essayer de le filmer de manière mystérieuse, on va dire, tu vois, à défaut, tu vois. Bah moi je dis non, c'est pas un film de réel, c'est un film de scénariste, de producteur si tu veux, avec un mec qui a chanté le truc.
Même que ce que tu as vu au début est presque un accident en fait.
Mais peut-être. je suis pas en train de te dire que le mec masterise son truc. Si c'est dire que le film est con parce que il va pas au bout de son concept et qu'il est raté au final, je suis d'accord. Le film est con, il va pas me rester dans la mémoire pendant 150 ans. Après je jette pas tout avec Claude Dubin,
par rapport
à 80% de ce type de sous-produit que je me tape en permanence et que je trouve insupportable au bout d'une minute trente parce que je vois les mêmes mécaniques, qu'elles soient narratives ou visuelles, tout d'un coup j'avais un mec qui savait un peu poser sa caméra, créer une ambiance, développer un mystère, monter un petit crescendo, il le chie total au final parce que c'est peut-être juste un exécutant inconscient et aveugle, si vous le voulez, je suis en train de défendre ce réel. Moi j'étais même pas fan de Trollhunter, hein, tu vois, à la base.
Mais moi, j'ai rien
je dis
vu
juste
du
que
mec.
Le début, je le trouve intéressant. Voilà, c'est tout
moi,
ce que
moi, j'ai rien vu du mec, c'est pas la question. La question, c'est même pas qui s'échit, c'est que juste que je pense que ce genre de film, c'est un peu les problématiques de ces films des films d'horreur actuels. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un film qui est casté avec un budget, qui a 15 patates. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux changer le scénar? Non, tu peux pas changer le scénar, tu le shootes tel qu'il est. À partir de ce moment-là, le mec, il a juste shooté. Il a pas, pour moi, tu vois, je veux dire, l'exploitation pure du fantastique, tu vas pas me faire croire que ça t'a fait peur. Enfin,
je suis en train de te dire que le mec est un tel grand cinéaste qu'il aurait pu retourner la mécanique narrative, contrer la volonté des producteurs pour faire un entrisme monumental réussir à traduire sa vision absolue du fantastique et un hommage à Nacho Cerda. Je suis complètement d'accord avec tout ce que vous dites. Je dis juste que c'est pas pour moi simplement du shooting.
On l'a énervé.
J'avais dit que ça allait arriver.
On m'avait pas énervé. J'ai quand même le droit de défendre mon putain de bout de gras si j'en ai envie. Merde. Vous allez pas me faire dire que tout d'un coup c'est de la merde totale parce que vous dites c'est de la merde totale. Je suis pas d'accord.
Ça va être très douloureux quand tu vas le revoir, Yannick.
T'as eu peur ou pas? T'as eu peur au film ou pas?
Non, j'étais intrigué. Je m'en foutais. Moi, j'ai plus peur moi dans les films d'horreur. C'est fini, ça fait bien longtemps. J'ai plus peur.
Moi, c'est ce que je demande.
Mais ça m'intriguait. C'est suffisant.
D'accord.
C'est suffisant.
Il ne connaît pas la peur. C'est Yannick.
Je connais pas la peur.
Avant de se quitter, parce que je crois qu'on vous considérera pas là-dessus.
C'est pas de Rocco, là, encore avec l'histoire de Rocco.
Je vais lancer Julien, d'accord. On fait comme d'habitude, on va prendre une poignée de minutes. Tu l'as dit, Stéphane, pour faire une petite liste de recommandations, ça peut être du film d'horreur, mais c'est pas obligé. Donc Julien, ça tombe sur toi, t'as compris, parce que les autres, ils ont pas travaillé.
J'en ai pas, j'aurais bien aimé penser à Nacho Cerda, en fait. J'avais pas pensé à
Aftermath.
Vous êtes chiant, c'est quand même prévu à chaque fin d'émission.
Une belle scène avec des cadavres.
Ouais.
Pour les gens de goût, Bad Boys 2. Voilà, il y a une scène dans la morgue avec un petit peu de nécrophilie, tout ça. Voilà, si vous aimez le cinéma, si vous aimez la vie, Bad Boys 2.
ou alors Nécromantique. Vous vous rappelez de Nécromantique?
Lui tient son concept jusqu'au bout. Nécromantique
1 et 2. Ah bah, tu parles de mecs qui fuck des cadavres. Moi je te dis Nécromantique 1 et 2. Par contre, que les gens qui ne connaissent pas Nacho Cerda se procurent clairement le DVD. Alors c'est un DVD qui s'appelle La Trilogie de la Mort, je crois qu'ils l'ont appelé comme ça, je ne suis pas sûr. Qui regroupait tous ces courts-métrages. Donc il y avait Aftermath, il y avait Genesis, il y en avait plusieurs autres aussi à l'intérieur. C'est un type qui, par la sueur, c'est un gros intello, Nacho Cerda. Moi je l'ai rencontré, c'est un mec qui se prend la tête, mais alors de manière cosmique, et c'est pour ça qu'il fait probablement peu de films. En tout cas, après, il avait fait un petit film qui était très intéressant, très psychanalytique aussi, mais très intéressant, qui s'appelait Abandonné, qu'il a sorti il y a quelques années,
il y a 10 ans déjà.
Ouais. Bon, il a plus rien fait depuis, je sais pas où il est, je sais pas où il habite, mais en tout cas, il a fait ces films-là, ils étaient plutôt chouettes. Donc, découvrez Nacho Cerda si vous en avez l'occasion.
Stéphane.
Ah, il me faut une reco là. Je pensais que j'étais sorti du truc. Moi, je vais faire. Non, bah, si vous voulez une très belle scène de cadavre vraiment filmée, tu vois, Les Rivières Pourpres. Voilà.
Ah, c'est vrai.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise, quoi, tu vois, non, j'ai pas de. Non, mais j'aime bien rappeler que, parce que pour le coup, c'est un cadavre qui avait été complètement refait par, tu vas m'aider, Julien.
Jean-Christophe Padacini, Denis Gastou.
Qui était un cadavre assez magnifique, tu vois. Donc voilà, c'est pas aussi beau que la jeune actrice qui joue le rôle, mais voilà.
C'est vrai, je pensais pas.
C'est quoi, ça part en couille, moi j'ai pas prévu de.
Ouais, je vois ça, je suis atterré.
Excuse auprès de. Voilà.
Tu pouvais t'excuser.
Et si vous voulez, vous pouvez enchaîner avec Les Rivières pour deux, qui est le cadavre des Rivières pour. Qui est carrément assez comment dire
très mal, voilà. Tu ça t'arrête tout
quel
de suite,
bad boss de France hein.
Si seulement
suite, arrête tout de suite Thomas, arrête tout de suite.
Stop. Notre temps est écoulé, merci à tous les trois. Merci à Jules à la technique, merci à l'antenne Paris, au public pour l'accueil, désolé. Rendez-vous sur nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement public si vous venez nous voir, et puis voilà, à très vite.
Salut, c'est Mehdi Maizi, retrouvez nos fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans nos fun.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.